On va démarrer ce premier atelier consacré aux questions des dimensions politiques de la guérison à travers son titre qui est gouvernance de la guérison. On a jusqu'à présent entendu que politique et norme de la guérison était un axe fort et de l'appel à communication de ce colloque, comme il a été des développements évoqués par Marie Ménoré. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour cet atelier Alain Giamy, qui va nous parler d'idées de guérison, sexologie et médecine sexuelle entre guérison et qualité de vie. Raymond Massé, qui va évoquer guérir les vulnérabilités entre étiquetage social et vulnérabilité négociée. Et Anne-Chantal Hardy, qui va évoquer la question de guérir à prévenir. La médecine va-t-elle changer de paradigme? Je n'ai pas eu de nouvelles de Christian Laval, qui devait aussi contribuer à cet atelier, mais ce qui va peut-être nous donner l'occasion d'avoir un peu plus de temps pour les échanges successifs à chacune des communications. Donc, environ 20 minutes pour chaque intervenant. Et je remercie Alain Giamy, auquel je donne tout de suite la parole. Merci.
Bonjour. D'abord, merci aux organisateurs d'avoir accepté ma communication. Donc, je ne suis qu'un anthropologue amateur qui me promène un peu comme un flâneur, disons, entre les différentes disciplines. Le sujet de cette communication pose des questions qui sont très différentes de celles qui ont été évoquées donc, dans la séance plénière. C'est-à-dire, on a parlé du cancer, moi je vais parler de la sexualité et des troubles sexuels. Donc je crois qu'il y a, et la question est de voir finalement, est-ce que c'est intéressant aussi de poser la question dans le cadre de ces pathologies. C'est des pathologies qui sont reconnues aussi bien par le DSM-5 que par la classification internationale des maladies qui est en cours de révision à l'OMS. Alors le propos sera un petit peu différent de ce qui est annoncé dans le résumé. Parce que c'est un travail qui est en cours, donc et ça évolue. Et ça évolue encore, je dirais, jusqu'à hier soir. J'ai reçu encore parce que je participe justement des réseaux de discussion autour de ces questions. J'ai encore reçu des documents dans la nuit hier soir, que j'ai inclus donc, dans cette présentation. Parce que c'est un processus qui est en cours de développement. C'est-à-dire, c'est la question de l'approbation, l'homologation des médicaments visant à traiter les troubles sexuels des femmes. C'est ça donc, l'objet, et à travers la lecture des destins de deux molécules, l'Intrinsa et la flumancérine, qui n'ont pas été approuvées par la FDA aux États-Unis, que je vais avancer donc une réflexion sur la question de la guérison, c'est-à-dire que la guérison, finalement, et les moyens d'assurer, alors, en tout cas, peut-être pas la guérison, mais en tout cas des traitements, parce que c'est pas la même chose, se décide en Caroline du Nord, à l'Institut national de la santé aux États-Unis, par le biais de tout un tas d'interactions, de conflits, de négociations entre différents types d'acteurs. Donc, d'abord, les critères thérapeutiques en médecine sexuelle, alors, c'est effectivement les critères par lesquels on évalue le succès des traitements. Les traitements, c'est à la fois des thérapies sexuelles de type psychologique, comportemental, de couple ou d'inspiration psychanalytique, et depuis le début des années 80, des traitements pharmacologiques qui sont censés avoir une certaine efficacité. Sauf que l'efficacité, donc, qui est un autre terme à prendre en compte, de ces traitements se mesure donc, au travers de tout un tas d'études, à travers un certain nombre de critères qui sont l'augmentation de la performance sexuelle, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de rapports sexuels satisfaisants, et ça c'est pour les troubles sexuels des femmes, les dysfonctions sexuelles féminines, female sexual dysfunction, qui concernent principalement les troubles du désir et de l'excitation. C'est donc les médicaments dont on va parler donc, traitent de cette pathologie donc, et leur efficacité se mesure donc, en termes d'augmentation du nombre de rapports sexuels satisfaisants, d'augmentation de la satisfaction sexuelle et de la qualité de vie sexuelle, donc, ça c'est pour la dysfonction érectile. Pour les hommes, dans la question de l'éjaculation prématurée, il y a la question de la durée de latence intravaginale d'éjaculation. Alors la question s'est posée pendant longtemps, du temps de Masters et Johnson, l'éjaculateur précoce était celui qui éjaculait avant la survenue de l'orgasme de la femme. Maintenant, donc, les comités de consensus ont établi des critères objectifs, c'est une durée de latence intravaginale qui doit être équivalente à une minute, donc on passe à des critères objectifs de mesure. Donc on mesure aussi avec un certain nombre d'échelles de qualité de vie, et la question aussi d'un point de vue psychothérapeutique, est-ce qu'on traite du symptôme ou de la relation, ou est-ce qu'on va restaurer une activité sexuelle normale ou satisfaisante, ou bien augmenter la performance, ce qui en anglais rejoint tout un courant de réflexion sur le enhancement, c'est l'amélioration donc des performances. Alors, en amont de la pratique médicale, je souhaite interroger donc les arguments et les processus de négociation et de conflit qui permettent de valider et d'approuver un médicament à partir de l'analyse de ces deux médicaments qui n'ont pas été approuvés par l'FDA. Alors, dans des discussions avec des économistes de la santé, des spécialistes des médicaments, il y a très peu de travaux, quasiment pas, sur des médicaments qui n'ont pas été approuvés. Et a fortiori, donc, on mesure la vitesse, disons, des processus, hein, mais on ne s'intéresse pas scientifiquement aux médicaments qui ont été rejetés. Donc on va essayer de comprendre donc, les critères de validation qui sont les essais cliniques randomisés et de discuter des controverses qui se déroulent autour de l'approbation de ces médicaments à partir aussi d'une approche comparative entre les systèmes de vigilance sanitaire Europe et Américain et la question de l'égalité, ça fait beaucoup de choses, hein, et la question de l'égalité de genre qui est posée actuellement par une coalition financée par l'industrie pharmaceutique visant à attirer l'attention sur le fait que les hommes disposent déjà d'un certain nombre de traitements pour les troubles sexuels masculins et que les femmes ne disposent d'aucun médicament pour les troubles sexuels féminins. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui entrent dans ces argumentations. Il y a des éléments d'ordre biomédical et des éléments d'ordre idéologique et politique, ce qui laisse à penser qu'il y a à la fois dans cette discussion des jeux de passage permanents entre ce qu'on peut appeler les faits et les valeurs. Traditionnellement, c'est les scientifiques qui sont considérés représenter les faits et ceux qui s'y opposent qui sont considérés comme représentant les valeurs, mais on verra que dans la perspective des sciences, des science studies, que les faits, l'équilibre et la présence des faits et des valeurs est présente finalement dans l'ensemble des discours, certainement à des degrés divers. Donc les conditions des traitements sexologiques ont changé drastiquement depuis le début des années 80 et on est passé donc de la psychothérapie à la pharmacologisation et notamment la question du pouvoir magique de restaurer des érections. Quand l'urologue français Ronald Virag a malencontreusement fait des injections de papavérine sur un homme en anesthésie et qu'il a eu une érection immédiate, il a compris qu'il allait résoudre un vieux rêve de l'humanité qui est de provoquer une érection à la demande. Et ça, c'est le pouvoir des injections intracaverneuses qui est de provoquer une érection à la demande, pouvoir que le Viagra n'a pas. Et on est passé donc de cette possibilité de traiter l'impuissance masculine, vraiment de façon magique, comme disait un des sexologues, d'avant ses découvertes, à une médecine, donc, une médecine sexuelle qui est basée sur des preuves, c'est-à-dire basée sur toute une série de travaux scientifiquement validés, publiés dans des revues médicales prestigieuses, telles que le New England Journal of Medicine, par exemple, ou le British Medical Journal, d'autres journaux. Donc, ça s'inscrit dans les politiques du médicament et des stratégies d'approbation, avec l'apparition du principe de précaution, c'est-à-dire qu'un médicament, pour être approuvé, doit mettre en évidence, on doit avoir mis en évidence son efficacité, définie par certains critères, mais aussi son absence d'effets adverses. Alors, les effets adverses, c'est un peu compliqué, parce que par exemple, quand on prescrit à une femme un patch de testostérone, on ne sait pas quels sont les effets secondaires d'un patch de testostérone sur une année, deux années, trois années, d'autant plus que c'est un patch, c'est, vous savez, un médicament qui est à diffusion permanente. Donc, ces médicaments donc, sont approuvés donc, aux États-Unis par un organisme centralisé, et en France, jusqu'à il y a quelques années, c'était des agences nationales, et maintenant c'est la European Medicine Agencies qui regroupe toutes les demandes d'autorisation de mise sur le marché. Il y a donc des nouveaux acteurs qui entrent dans la construction de ces stratégies. Donc il y a d'une part, effectivement, l'industrie pharmaceutique qui a un pouvoir exorbitant en termes de financement des recherches, de financement de la formation des médecins, de financement des congrès, de soutien aux publications, si vous voulez, et un certain nombre de travaux dans le domaine des science studies ont fait apparaître justement combien il existait, on va y venir, une corporate science, c'est-à-dire une science de l'entreprise qui est financée par l'industrie pharmaceutique, et qui ne fait apparaître que les résultats positifs en fonction des médicaments. Donc, une des questions, effectivement, où va se trouver la ligne de partage dans les discussions qui concernent les faits et les valeurs, et en particulier à propos des questions de sexualité. Alors, ces deux médicaments, donc c'est l'Intrinsa, qui est un patch de testostérone qui est recommandé pour les femmes, alors qui a été validé, approuvé en Europe en 2006, par l'agence européenne, mais pour une indication rarissime et gravissime, comme disait l'ancien directeur général de la santé, c'est-à-dire pour les femmes en situation de post-ménopause chirurgicale, pour les femmes à qui on avait enlevé l'utérus et les ovaires, donc, et qui souffraient de troubles du désir hypoactif, du trouble sexuel hypoactif. Donc, ce médicament a été rejeté par la FDA en décembre 2004 et il a été approuvé par l'Agence européenne en 2006. Ensuite, en 2010, l'industriel a demandé une extension de la mise sur le marché, c'est-à-dire à toutes les femmes, finalement, et pas uniquement aux femmes ménopausées pour des raisons sociales, qui n'a pas été donc validée par l'Agence européenne. La flibanserine, qui est un dérivé d'un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, qui est un genre d'antidépresseur, avait été initialement développé par Boehringer Ingelheim, une entreprise basée en Allemagne, a été rejetée par l'FDA en juin 2010. La recherche et développement donc, a été discontinuée, interrompue par Boehringer en octobre, quelques semaines après, mais il y a eu la molécule a été reprise par un autre laboratoire qui s'appelle Sprout, qui l'a soumis à la FDA et qui a été rejeté en juin 2013. Il y a donc une nouvelle demande en cours pour validation donc le 4 juin auprès de la FDA. Et c'est justement dans la préparation de cette séance du 4 juin que se déroulent toutes les controverses entre les différents acteurs donc, qu'on va examiner plutôt maintenant. Donc voilà. Alors, ces médicaments donc, ont fait l'objet d'un certain nombre de d'essai clinique randomisé qui constitue le gold standard de la validation des médicaments et qui vise donc à mesurer à la fois l'efficacité et l'absence et la présence ou absence d'effets adverses. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces essais cliniques. Alors, ces médicaments se trouvent pris dans un certain nombre de controverses sur les troubles sexuels féminins. D'une part, il y a une épidémiologie qui est contestée, et notamment le chiffre de 43% de femmes qui auraient des troubles sexuels qui a été établi, disons, par une équipe américaine, mais qui est, de par la méthode qui a été utilisée, qui se trouve contestée. Il y a une nosographie qui est en cours de révision dans le cadre du DSM et dans le cadre de la classification des maladies, et notamment toutes les discussions tournent autour de la question: est-ce qu'il s'agit de troubles qui sont éligibles pour des traitements ou de problèmes et de difficultés qui sont accessibles au counseling, c'est-à-dire des approches de psychothérapeutiques. Donc il y a des oppositions qui se cristallisent autour d'une partie des psychosexologues féministes qui sont organisés dans une coalition qui s'appelle New Views on Women's Problem, qui est très très active dans le domaine, mais en même temps, donc, qui est opposée à une société internationale pour l'étude des problèmes des femmes, et qui vise en faveur de la reconnaissance de la qualité de maladie de ces troubles et en faveur de l'approbation de ces médicaments. Et enfin, il y a une opposition entre le British Medical Journal, qui a une position beaucoup plus critique, notamment qui publie des articles de Ray Moynihan sur le disease mongering, c'est-à-dire l'invention des maladies, et le Journal of Sexual Medicine, qui est une revue tout à fait respectable, mais qui est financée par l'industrie pharmaceutique au maximum. Donc, on voit bien, il y a d'une part la critique de la médicalisation de la sexualité qui est faite par la coalition des New View, qui considère que ces troubles ne sont pas des maladies, sont des problèmes d'origine psychosociale, qui ne peuvent pas être traités par un médicament, car le fait d'attribuer à une femme l'absence de désir, au fait qu'elle n'ait pas de rapport sexuel, pourrait la mettre en danger, dans la mesure où on considère comme légitime qu'une femme n'ait pas de rapport sexuel dans des situations de partenariat adverse. Et donc, il y a l'idée selon laquelle, en mettant en œuvre le concept de trouble du désir, on occulte le fait que la femme résiste face à la grève du sexe, disons, dans une situation adverse. Et donc, notamment, il n'y aurait pas d'évaluation des risques pharmacologiques à moyen terme. L'industrie et les chercheurs qui travaillent avec l'industrie considèrent que ces troubles sont des vraies maladies, c'est un besoin médical qui n'est pas rempli, et que ce besoin est justifié par les taux élevés de vente en dehors des autorisations de mise sur le marché de la testostérone pour les femmes ménopausées, et qu'une AMM internationale permettra de mieux réguler le marché et de mieux protéger les femmes. D'un côté, donc, on considère que c'est un produit qui n'est pas très bon, donc qui a des bénéfices cliniques très limités, et d'autre part, on considère... Alors, il y a toute une campagne à la fois médicale, de propagande publicitaire et de financement de congrès qui vise donc à accréditer l'idée qu'il s'agit de bons médicaments. Donc, là, l'Intrinsa donc, a été rejetée par la FDA et a été approuvé partiellement donc, par la Commission de la Transparence et l'AMM et le EMA donc, en Europe. Pour le flibanserine, donc, ça a été complètement rejeté donc, par la FDA et ça n'a pas été présenté en Europe. Alors, donc ça c'est la controverse à laquelle on assiste, disons, actuellement. À la suite, donc, et la façon dont elle est diffusée, et c'est pour ça que je trouve que c'est un élément qui représente finalement bien la nature des choses. Il y a eu donc la publication d'un article de Hélène Lane et Léonore Tiffer, qui sont les deux principales sexologues, psychosexologues, membres de la coalition des New Views on Sexual Problems, qui ont publié donc un article dans le Los Angeles Times en 2014, et Ça, c'est la réponse qui a été diffusée par l'autre coalition, parce que le débat s'est déplacé avec l'apparition d'une nouvelle coalition qui s'appelle Even the Score, et qui défend justement, qui a déplacé l'argument sur l'idée de l'injustice et de l'inégalité entre les sexes. Les hommes disposeraient de 26 traitements différents pour les troubles sexuels, et les femmes ne disposeraient d'aucun traitement. Et on assiste, si vous voulez, donc un élément important qui fait la différence entre les systèmes de santé américains et les systèmes de santé européens et français, c'est qu'à la FDA, il y a des auditions publiques. La société civile peut venir donner son avis sur l'homologation d'un médicament. Et on assiste justement à deux groupes qui s'opposent, qui financent des femmes pour venir apporter leur témoignage, les unes disant qu'elles n'ont pas besoin de médicaments et l'autre, les autres disant qu'elles en ont besoin. Et cette controverse, alors, s'est déplacée justement sur l'idée de l'inégalité de genre. C'est-à-dire que dans un premier temps, la controverse porte sur la question de l'efficacité et des troubles adverses, disons. Et la FDA rejette ce médicament parce que l'augmentation d'un rapport sexuel satisfaisant par mois n'est pas considérée comme suffisante par rapport au risque encouru par les femmes. Et donc, face donc à ce rejet, la coalition Even the Score, qui est financée par l'industrie pharmaceutique, déplace la discussion sur la question du genre. Donc on voit bien les intrications entre les arguments d'ordre scientifique et les arguments d'ordre politique, donc qui se mêlent les uns les autres, et comment on assiste. Alors la dernière note qui est parue hier soir, on assiste à une inversion finalement des perspectives, où c'est la coalition de consommatrices citoyennes qui s'opposent donc à la mise sur le marché de ces médicaments, qui utilisent des arguments scientifiques, et notamment de discuter les diagnostics, de refaire des essais cliniques, de discuter de la scientificité des essais cliniques, et comment les coalitions soutenues par l'industrie pharmaceutique adoptent au contraire un discours sur l'égalité de genre. Il m'a semblé donc important d'analyser ces médicaments par justement cette question, revenir à la question de la guérison, qui fait apparaître combien finalement les traitements et les critères utilisés pour la validation des traitements visant à apporter une amélioration de la santé sexuelle des femmes sont fondés finalement sur des critères qui n'ont rien à voir avec la médecine, mais qui engage finalement l'économie, la politique, l'idéologie et les questions d'égalité de genre. C'est une affaire qui est en cours, dans la mesure où ce document j'ai reçu donc hier soir, et où la prochaine session de la FDA a lieu le 4 juin, et que donc j'accompagne ce travail pour essayer de comprendre justement toutes ces intrications et ces changements de position entre les différents acteurs. Le dernier point, il s'agit d'une des rares situations dans laquelle des associations de patients se battent contre l'approbation d'un médicament. Alors que traditionnellement, on le voit pour le sida par exemple, pour d'autres médicaments, les associations de patients se battent pour l'approbation des médicaments. Donc c'est aussi ce qui fait l'intérêt de cette situation. Voilà. Je vous remercie.
D'éventuels commentaires, questions. Il y a un micro dans la salle.
Une question ?
Moi j'en aurais une en fait par rapport à la dernière phrase là. C'était qu'il n'y avait jamais eu de lutte contre l'approbation. Pour ce qui est des traitements hormonaux de substitution, il y a quand même eu des controverses et des luttes qui s'opposaient à la délivrance, même si ça, c'est peut-être.
Mais est-ce que ça a été structuré, enfin aussi structuré que je connais plus ou moins cette situation, mais est-ce que les coalitions qui se sont mises en place pour lutter contre les traitements hormonaux substitutifs, est-ce qu'elles sont aussi structurées finalement et actives au plan politique? Là, on a vraiment un groupe qui s'est structuré, qui a un site internet et qui publie des études, qui fait des fait des alliances avec des revues scientifiques, qui publie ses points de vue, etc. Alors, je me demande si la controverse dans ce cas-là, ce n'est pas uniquement une controverse entre scientifiques. Et quelle est la place et le rôle que jouent les associations? Est-ce qu'il y a des associations de patientes très structurées qui jouent un rôle d'interlocuteur? Mais je crois qu'en Europe, c'est très différent des États-Unis. Je veux dire, les lobbies, disons, de consommateurs et consommatrices n'ont pas le même pouvoir ni la même influence. Mais c'est vrai, sur les traitements hormonaux substitutifs, c'est aussi il y a aussi des oppositions.
Et des registres de controverse qui ressemblent.
Tout à fait.
Sinon, je parle un peu fort. Si j'ai bien compris, les dysfonctions sexuelles féminines sont reconnues par le DSM-5.
Oui, oui, mais depuis le. Oui.
Or, justement, dans cette espèce de participation de la société civile à la construction même des définitions de qu'est-ce qui est une maladie ou est-ce qui n'est pas, il me semble qu'à une époque, dans les années 80, le DSM-4, je crois, mettait l'homosexualité dans les pathologies. Et les associations homosexuelles avaient beaucoup combattu ça et avaient réussi à le faire extraire. Est-ce que ça se fait que les associations féminines, ou je ne sais pas, qui luttent contre ce médicament, n'ont pas non plus attaqué le DSM-5 sur ça, comme d'autres ont pu le faire sur le fait.
Alors, ce qui s'est passé donc, avec l'homosexualité, en fait, l'American Psychiatric Association a exclu l'homosexualité des troubles mentaux en 1973. Mais ensuite, le DSM l'a exclu effectivement au début des années 80, mais finalement, et l'OMS, dans sa classification, ne l'a exclu qu'au début des années 90. Hein. Donc, c'est des processus longs. Hein, je veux dire. En ce qui concerne les troubles sexuels des femmes, toute la discussion. Alors, c'est quand même des processus extrêmement compliqués, parce que des participantes de la coalition New Views on Women Sexual Problems ont participé au groupe de travail de révision du DSM-5, notamment Laurie Brotto et Cynthia Graham, par exemple, mais la procédure, donc, et ont tenté d'introduire une distinction entre des problèmes et des difficultés et des troubles. Elles n'y sont pas arrivées. Enfin, elles l'avaient proposé dans les travaux préliminaires, mais les travaux préliminaires des groupes de travail sont ensuite discutés par le steering committee général du DSM. Et c'est la même chose pour l'OMS. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui sont menés par des comités, mais qui ensuite sont repris par des comités politiques hein, et qui décident finalement du destin des catégories. Alors, le débat actuellement autour des nosographies, c'est plutôt autour de la catégorie de troubles de l'identité de genre qui est en train de se transformer en dysphorie de genre ou en incongruence de genre et qui vise à la dépathologisation et à la dépsychiatrisation des troubles de genre.
Sylvie, puis ensuite Stéphane.
Oui, ça marche pas ? Non, ça ne marche pas, alors je parle fort. Est-ce que tu pourrais nous dire plus précisément ce qui est entendu par mise en danger des femmes en cas de situation de partenariat adverse ? En quoi il y a danger ?
Oui, alors ça, c'est, effectivement, c'est toute une série de travaux qui ont été menés aux États-Unis par une équipe autour de John Bancroft et de Cynthia Graham notamment, qui font état des violences au sein du couple et du fait que les femmes n'aient plus envie d'avoir des rapports sexuels donc avec leur partenaire principal. Et c'est l'idée selon laquelle la pathologisation de l'absence ou la diminution du désir sexuel est une façon d'occulter les violences et les problèmes, disons, conjugaux au sein des couples, et de faire porter sur la femme uniquement le burden of illness, c'est-à-dire le fardeau, disons, une façon d'attribution de responsabilité, de pathologisation de la femme dans une situation qui est plus une situation sociopolitique. C'est ça l'idée, et c'est l'idée selon laquelle ça serait une façon d'obliger les femmes à avoir des rapports sexuels avec des hommes, alors qu'elles n'en ont pas envie. Alors, ce qui est intéressant, enfin, moi, ma critique de ce point de vue, c'est que cette perspective considère que l'absence de désir sexuel et la diminution du désir sexuel chez les femmes constituent une réponse adaptée à une situation adverse. Par contre, on n'a jamais pensé que l'impuissance masculine ou l'éjaculation précoce pouvait être une réaction adaptée aussi à une situation adverse, comme un homme qui fasse la grève du sexe. Ça, les hommes, on ne considère jamais que l'absence d'érection est une réaction adaptée à une situation donnée. Donc il y a toujours une dimension.
Ce qui me surprend un peu, c'est cette notion de danger, parce que je comprends bien ce que tu dis sur cette grève du sexe, hein, qui serait une réponse finalement sociale à une situation sociale, mais l'idée que le médicament met en danger la femme, on a l'impression que parce qu'elle prendrait ce médicament, elle ne pourrait plus faire valoir sa résistance socialement, comme si son désir était tel qu'elle n'arrivait plus à résister. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'assez surprenant, finalement.
Non, alors attends, d'abord, ce n'est pas mon point de vue. Hein, c'est le point de vue d'un certain nombre de gens. Ce n'est pas simplement le fait de prendre le médicament, c'est le fait d'attribuer une responsabilité à la femme. Donc, et une pathologie, parce que la définition d'une telle pathologie constituerait une attribution de responsabilité et qui priverait effectivement les femmes des capacités de résistance dans des situations adverses. C'est ça l'idée qui est développée par ce groupe. Et qui considère effectivement que ce qu'on appelle l'absence de désir sexuel chez une femme est une réaction adaptée à une situation adverse.
Si je peux prendre la parole, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, moi je m'interrogeais sur le moment de ton exposé où tu parlais des inégalités de genre qui peut-être expliqueraient la différence de nombre de traitements pour les femmes et les hommes. Et je me demande s'il ne faudrait pas justement le prendre, mais vraiment dans une optique d'analyse de genre, pour dire le contraire. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait beaucoup de traitements proposés aux hommes, est-ce que ce n'est pas aussi une façon, justement, de les maintenir dans un rôle sexuel, qui consiste à leur demander d'exister dans des rapports sexuels performants, quelle que soit, justement, la relation, et de ne pas tenir compte, justement, du contexte, de la situation de la relation sexuelle, pour comprendre les dysfonctions sexuelles. Et donc, du coup, d'imposer un modèle genré à travers la multiplication des traitements proposés, plutôt que... de réfléchir aux limites de ce modèle.
Tout à fait. Tout à fait d'accord avec ce que tu dis, j'ai déjà écrit. Mais il y a l'idée selon laquelle, pourquoi finalement le Viagra s'est passé comme une lettre à la poste. Enfin, il n'y a pas eu les mêmes et les autres médicaments similaires, alors que les médicaments pour les femmes ne passent pas. C'est-à-dire, l'idée, c'est que pour les hommes, on traite un problème physiologique et on considère que la sexualité masculine, c'est de l'ordre du besoin physiologique, donc, et on distingue l'érection du désir, enfin, etc. Donc, et on a un médicament pour traiter ces choses-là. Pour les femmes, on considère que la sexualité féminine est quelque chose de beaucoup plus complexe et que ça n'est pas... on ne peut pas le couper en morceaux en trouble du désir ou autre trouble. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un seul trouble pour les femmes, c'est le trouble sexuel féminin, et les coalitions féministes aussi considèrent que la sexualité féminine est beaucoup plus complexe que la sexualité masculine, c'est-à-dire qu'elle est psychologique, qu'elle est sociale, contrairement au modèle de la sexualité masculine. Alors l'idée finalement, ça serait, est-ce qu'il ne faudrait pas proposer une psychologisation de la sexualité masculine et une approche plus physiologique de la sexualité féminine dans une perspective de genre. Parce qu'il y a toujours, et la science reproduit ce schéma traditionnel, les hommes c'est physiologique et les femmes c'est psychologique.
peut-être passer à l'intervention de Raymond Massé.
Thank you.